Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous à l'écoute de ce numéro de Métropolez-vous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission consacrée à l'actualité de la métropole toulousaine. Depuis quelques mois, si vous êtes des fidèles de ce rendez-vous sur Radio Présence, vous aurez remarqué que nous avons évoqué à plusieurs reprises des expositions actuellement en cours à Toulouse, que ce soit au Muséum, au Quai des Savoirs ou à la Cité de l'Espace. Toutes relèvent de ce qu'on appelle la culture scientifique et technique, mais d'autres lieux d'exposition toulousains sont dédiés à d'autres disciplines, d'autres domaines, comme l'histoire par exemple. C'est le cas du musée Saint-Raymond et du couvent des Jacobins où ont été installées les deux parties de l'exposition Cathare-Toulouse dans la croisade. Elle a été ouverte au public le 5 avril et vous pouvez la visiter jusqu'au 5 janvier prochain. C'est évidemment un grand événement dans la ville des Comtes de Toulouse et dans une région marquée par ce qu'on appelle le catharisme. Ce terme cathare, son bien fondé et sa réalité historique sont d'ailleurs l'une des questions abordées dans cette exposition que nous allons vous présenter au cours de ce numéro. Et pour nous parler de l'exposition Cathare, Toulouse dans la croisade, il fallait un vrai spécialiste du sujet et quelqu'un qui a participé à la conception de l'événement. J'ai la grande chance de recevoir le commissaire associé de l'exposition, Laurent Massé, professeur d'histoire médiévale à l'université Toulouse-Jean Jaurès et membre titulaire de la Société archéologique du Midi de la France. Bonjour monsieur et merci d'avoir répondu à mon invitation.
Bonjour Éric Dupri, bonjour à tous.
Pour que l'on sache d'où vous parlez, comme on dit, je vais commencer par vous demander ce que sont vos spécialités en tant qu'historien, les périodes, les événements historiques sur lesquels vous avez essentiellement travaillé et publié. Ça va permettre à nos auditeurs de comprendre pourquoi vous avez été sollicité pour être le commissaire associé de cette exposition.
Alors, je suis un médiéviste et je m'intéresse tout particulièrement au XIIe et XIIIe siècle, et tout particulièrement pour les sociétés méridionales, les sociétés du Midi, plutôt les sociétés aristocratique, de façon assez générale. Voilà, j'ai beaucoup travaillé sur les textes, les documents d'archives, mais je m'intéresse aussi à tout ce qui est représentation du pouvoir à travers les sceaux, l'héraldique, l'iconographie en général.
Et vous êtes entre autres spécialiste de l'histoire des Comtes de Toulouse, de la Grande Guerre méridionale et de la croisade contre les Albigeois. On va y venir. Est-ce que vous pouvez nous indiquer, nous préciser qui est à l'origine de cette exposition? C'est la première de grande ampleur consacrée à ce sujet en France. Qui a eu l'idée de la monter et avec quels objectifs?
En fait, c'est une idée originale de Laure Barthé, qui est la directrice du musée Saint-Raymond et conservatrice en chef du patrimoine. Et Laure Barthé avait ce rêve depuis de nombreuses années de monter une grosse exposition autour de la croisade contre les Albigeois. Nous sommes dans une période de commémoration, puisque ça fait 800 ans que ces événements ont eu lieu. Et par conséquent, c'est vrai qu'il fallait peut-être mettre l'accent sur ces événements. Donc, Laure Barthé a souhaité monter une exposition et s'adjoindre les services d'experts, donc notamment un archéologue, Jean Catalot, qui est commissaire associé, archéologue à l'INRAP, et faire appel à un universitaire, donc votre serviteur, pour l'accompagner dans le montage de cette exposition.
Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le titre « Cathare, Toulouse ». Dans la croisade, pourquoi c'est celui-ci qui a été retenu? Parce que ça aurait pu s'appeler Cathare tout court. Quelle est l'idée centrale, la ligne directrice de l'exposition?
Alors, le titre est très important. Il a demandé justement beaucoup de réflexion parce qu'on souhaitait, cette exposition a pour but de faire réfléchir cette notion de Cathare et de catharisme. Et Cathare est une désignation, donc on a tenu absolument à ce qu'il y ait des guillemets dans le titre. Et en même temps, préciser que ce qu'on appelle le catharisme, s'installe dans une période qui est beaucoup plus large, qui est le XIIIe siècle, et qui va avec la croisade contre les Albigeois. Donc il fallait expliquer tout cela, et c'est vraiment Toulouse qui est prise, la ville de Toulouse qui est prise dans un événement beaucoup plus large.
Oui, alors il y a la question de l'hérésie dite cathare, tout ça, mais aussi, on va rentrer dans le détail bien sûr, mais aussi ce qui est au centre, je pense, de l'exposition, ce sont tous les débats qui animent la communauté des historiens sur cette question du catharisme.
En fait, oui, ce débat dure depuis pas mal d'années et on voulait non pas le poursuivre, mais tout simplement donner au public les éléments de ce débat. Donc, cette exposition est une exposition à la fois d'histoire et d'archéologie. Il faut vraiment insister sur les deux aspects. Et donc, on met à voir des objets, mais aussi des documents d'archives. Mais l'idée, c'est de proposer toutes les pièces pour que les personnes, les visiteurs puissent s'en inspirer et ensuite poursuivre le débat par d'autres biais, à savoir par la littérature scientifique. Donc il n'y a pas de provocation de notre part, hein, il n'y a pas du tout l'idée de remuer un peu la vase, mais il faut présenter le sujet dans toute sa complexité, parce que c'est un sujet complexe.
Comme souvent lorsqu'on parle de périodes historiques qui sont lointaines dans le temps, sur lesquelles on n'a pas forcément énormément de documentation et d'écrits. Merci pour cette introduction qui pose les bases de nos échanges autour de l'exposition Qatar-Toulouse dans la croisade. Nous allons poursuivre dans quelques minutes, ce sera après le flash d'information métropolitaine hebdomadaire de Corinne Saint-Félix. Métropole et vous, l'actu.
Vous le savez peut-être, Eric, mais la 10e édition de la course Odyssea se prépare. Elle a lieu ce dimanche. Cette course est devenue un classique pour les amoureux du sport qui se mobilisent pour la même occasion pour une cause, celle de la lutte contre le cancer du sein. Les bénéfices seront reversés au comité 31 de la Ligue contre le cancer. Les inscriptions en ligne se terminent ce jeudi 25 avril. Au programme, une course de 10 km chronométrée à partir de 16 ans, une course de 5 km non chronométrée à partir cette fois de 8 ans, une marche de 5 km non chronométrée à partir de 5 ans, 1 km enfant je cours pour maman de 5 à 12 ans inclus, ou encore une course à distance de 5 km ou 10 km pour les plus courageux, à réaliser jusqu'au dimanche 5 mai via l'application mobile Odyssea. Pour les plus frileux, vous pouvez aussi soutenir la cause autrement, sans courir ni marcher, mais en achetant un t-shirt rose Odyssea. Les 9 précédentes éditions de cette course Odyssea ont permis au total de récolter 148 600 euros en faveur de la lutte contre le cancer du sein en Haute-Garonne. Et rien que pour l'édition 2023, 36 000 euros ont été reversés au comité, toujours de Haute-Garonne, de la Ligue contre le cancer. Autre activité à prévoir pour ce week-end, elle peut surprendre dans un milieu plutôt urbain, c'est celle de découvrir l'agriculture locale. Pendant 2 jours, vous pouvez échanger avec des acteurs locaux sur les productions et la question de l'alimentation durable. Plusieurs exploitations de la métropole vont vous ouvrir leurs portes pour cet événement intitulé « La Haute-Garonne de ferme en ferme ». Le thème de cette édition, arbres et biodiversité. Plusieurs activités vous sont proposées au domaine de Candy, avec dégustation de vin pour les plus grands, de jus de raisin pour les plus jeunes, observation des abeilles, éveil de vos 5 sens dans l'alimentation avec le conseil municipal des enfants. La ferme maraîchère de Bordebio à Toulouse, quartier des Trois Cocus, en bio depuis 40 ans, vous fera aussi découvrir sa large gamme de légumes sur 2,5 hectares en vente directe. La ferme de Salsa à Quinfon-Segrive et son propriétaire, Nicolas, vous propose une visite guidée de son exploitation. Sa devise, produire pour aujourd'hui, préserver pour demain. À Blagnac, c'est Quentin, maraîcher aux 15 sols, qui vous fera visiter son exploitation. Il produit de son côté plus de 40 légumes, sans travail du sol et sans mécanisation, en alliant des techniques anciennes et modernes. Plus de renseignements sur le site internet metropole.toulouse.fr. Et terminons avec ce déménagement assez insolite, la galerie du Château d'Eau à Toulouse s'en va de manière provisoire au Matou. En raison d'importants travaux de rénovation, la galerie a déjà fermé ses portes et s'est installée quelque temps au 58 allée Charles de Fitte. Ce pôle photographique met à l'honneur la photographie d'auteur. Les expositions favorisent une réflexion autour de l'œuvre du photographe exposé, qu'il s'agisse de grands auteurs ou de jeunes créateurs. La programmation reprendra à partir de juillet avec l'exposition « La théorie de l'horizon incliné » d'Anne-Lou Buzot. Le chantier de son côté prévoit un agrandissement du lieu avec l'ouverture d'une arche du Pont Neuf où seront déménagés les bureaux et services, mais aussi développer les surfaces d'exposition. Ce château d'eau est la première galerie publique dédiée à la photographie. Elle a été ouverte en 1974.
Merci à Corinne Saint-Félix pour ce flash d'information et ce panorama de l'actualité métropolitaine. Nous allons revenir au sujet principal de cette émission, l'exposition Qatar-Toulouse dans la croisade.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Nous revoici à l'antenne pour la suite de Métropolez-vous avec mon invité Laurent Massé, professeur d'histoire médiévale à l'université Toulouse-Jean Jaurès, membre titulaire de la Société archéologique du Midi de la France et donc commissaire associé de l'exposition Cathare-Toulouse dans la croisade à découvrir au musée Saint-Raymond et au couvent des Jacobins jusqu'au 5 janvier prochain. Alors, lorsque l'idée d'une exposition et ses objectifs ont été déterminés, il est de coutume de constituer un comité scientifique. Est-ce qu'il y en a eu un véritable qui s'est constitué autour de la conception de cette exposition, ou est-ce que ça a été peut-être un peu plus simple que ça, si je puis dire, avec 3 ou 4 personnes qui ont vraiment travaillé, collaboré de près sur le sujet?
Alors en fait, c'est vraiment le commissariat qui effectue ce rôle scientifique. Donc c'est Laure Barthé, la chef d'orchestre, et qui avait comme premier et deuxième violon donc Jean Catalot de l'INRAP et moi-même. Mais pour certains aspects, nous nous sommes adjugés les services de Alessia Trivelone de l'Université de Montpellier, qui est venue notamment pour traiter les questions sur l'hérésie et les traités anti-hérétiques, hein, qui sont des choses assez complexes à saisir.
Comment vous avez collaboré avec Laure Barthé? Vous vous êtes réparti le travail de quelle façon? Parce que chacun, j'imagine, a sa spécialité.
Laure Barthé a conçu l'ensemble, mais justement, elle avait besoin de conseils par rapport au choix de certains objets. Donc, pour l'archéologie, c'était Jean Catalot qui était chargé de cette mission. Et en ce qui me concerne, c'était plutôt des documents d'archives, mais en même temps aussi réfléchir à l'iconographie qu'on pouvait associer à cette exposition. Et aussi parce que c'est quelque chose qui nous est cher à tous les trois, l'idée d'être accessible pour que le public puisse comprendre notre propos et trouver aussi des documents qui soient, je dirais, non pas spectaculaires, mais qui permettent d'accrocher le regard et de guider le visiteur.
Une chose que doivent savoir nos auditeurs, c'est qu'il a fallu 4 ans pour la monter, cette exposition. Est-ce que c'est normal que ce soit si long pour une exposition de ce genre? Ou est-ce qu'il y a eu des difficultés, comme par exemple se mettre d'accord sur l'axe principal de l'exposition, sur la thématique et sur le parcours proposé aux visiteurs?
C'est une exposition de grande ampleur, puisqu'on est sur 2 sites, il y a 900 mètres carrés, plus de 300 objets, dont 90% viennent d'Occitanie. Donc il faut traiter avec des partenaires, que ce soit la BNF par exemple, les archives nationales, ou des prêteurs étrangers. Donc tout ça, ça prend du temps, c'est des démarches administratives. Et par ailleurs, il faut faire appel aussi à d'autres partenaires, notamment pour l'animation, pour mettre en place des bornes interactives, etc. Donc tout ça, c'est des démarches, donc ça prend beaucoup de temps. Il n'y a pas eu de grosses difficultés en termes de conception scientifique, on était assez d'accord. Ce trio a très bien fonctionné, il faut vraiment le dire, et ce commissariat, c'est sans doute aussi ce qui a permis que cette exposition soit de qualité.
Donc, 2 lieux, 2 parties pour cette exposition. Pourquoi se divise-t-elle donc entre ces 2 lieux, le musée Saint-Raymond et le couvent des Jacobins? Est-ce que c'est parce que le musée Saint-Raymond avait des pièces spécifiques et qu'il tenait absolument à ce qu'elles soient exposées dans son antre, si je puis dire? Ou est-ce parce que tout simplement il y avait un problème d'espace et que l'un et l'autre des espaces n'étaient pas suffisants pour que l'exposition y rentre complètement?
Absolument, l'antre du musée Saint-Raymond est assez réduite néanmoins. Et ce musée, qui est un musée avant tout d'archéologie, a besoin d'espace pour présenter un certain nombre de pièces. Et puis, cette exposition couvre un siècle, hein, c'est le 13e siècle. Par conséquent, pour que notre propos puisse se développer, il nous fallait beaucoup d'espace. Donc 900 mètres carrés, c'est bien. Et en même temps aussi, c'était pour montrer le caractère spectaculaire, hein, du sujet. Et par conséquent, oui, il nous fallait de quoi se déployer sur 2 espaces.
Alors, parmi les questions qui sont abordées, il y en a une qui fâche, si je puis dire, et qui donne lieu à des débats passionnés, et pas seulement entre les historiens. Ce terme « Cathare », est-ce qu'il revêt vraiment une réalité historique et est-ce qu'il convient de l'utiliser?
Alors, le terme « Cathare » est assez peu utilisé à l'époque médiévale, déjà. C'est un terme qui a surtout été repris, on va dire, au cours des siècles, notamment au moment des guerres de religion, dans l'opposition entre catholiques et protestants. Et puis c'est quelque chose qui a été revivifié au 19e siècle, alors dans un contexte que je ne vais pas pouvoir développer maintenant, mais dans un contexte un peu particulier, idéologique entre autres, et puis qui a été repris au 20e siècle avec des aspects un peu plus économiques et commerciaux. Donc le mot Cathare englobe beaucoup de significations, hein, c'est une polysémie très large, et justement tous ces aspects-là sont évoqués dans l'exposition.
Catharos. En grec, ça veut dire pur.
Absolument, ça veut dire pur, mais c'est une projection de la part des docteurs de l'Église sur ce qu'ils perçoivent ou ce qu'ils désignent comme étant une hérésie. Donc attention, c'est un regard. Hein. Cathare est une façon de désigner.
Donc, au musée Saint-Raymond, on va commencer là. Vous me direz après s'il faut commencer par le musée Saint-Raymond ou pas, ou si on peut commencer par l'une ou l'autre partie de cette exposition au choix. au musée Saint-Raymond, c'est la partie « La croisade contre les albigeois ». On est vraiment sur votre terrain de prédilection. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est cet événement historique, donc son origine, sa chronologie, ses protagonistes, et puis les grandes dates, les lieux emblématiques?
Alors effectivement, le musée Saint-Raymond présente l'aspect historique et archéologique de l'événement. La croisade contre les albigeois, alors c'est quelque chose qui démarre en 1209, après un appel à la croisade lancé par le pape Innocent III. Et cela suscite une expédition militaire qui génère un conflit important qui va durer une vingtaine d'années. En gros, le conflit s'achève en 1229 avec la capitulation du comte de Toulouse, Raymond VII. Mais néanmoins, cette croisade contre les albigeois continue. Il y a quelques aspects militaires qui continuent, notamment bien sûr avec la prise de Montségur en 1244, qui est sans doute l'acmé de l'aspect purement militaire. Alors les protagonistes, d'un côté, nous avons les comtes de Toulouse, mais aussi un certain nombre de seigneurs méridionaux, le comte de Foix, le comte de Comminges, les vicomtes d'Albi et de Carcassonne, mais ça dure assez peu de temps puisqu'ils meurent en 1209. Et de l'autre côté, on a des troupes qu'on qualifie de françaises, mais c'est un terme très générique pour désigner les croisés en fait, et qui sont menées dans un premier temps par un légat pontifical, puis ensuite par Simon de Montfort jusqu'en 1218, et puis ensuite c'est son fils qui prend la suite, Amaury de Montfort. Et puis la croisade change de nature, c'est le roi de France, Louis VIII, qui va se charger de continuer l'œuvre de ses prédécesseurs.
Les grandes dates, les lieux emblématiques de cette croisade, vous avez cité Montségur, il y en a d'autres?
Oui, alors pour nous Toulousains, il y a la bataille de Muret en 1213, bien sûr, qui voit la mort du roi d'Aragon sur ce champ de bataille, donc c'est une date importante, c'est vrai que c'est une césure aussi un peu dans la croisade. 1229 quand même est une date importante, on insiste beaucoup dans l'exposition sur cet aspect-là, parce que c'est la défaite des comtes de Toulouse, mais une défaite alors que la ville de Toulouse n'a jamais été prise par les croisés et que le comte de Toulouse n'a pas été défait sur un champ de bataille. Donc c'est une étrange défaite, pour reprendre une appellation à une autre période.
Le parcours qui est proposé aux visiteurs au musée Saint-Raymond pour illustrer cette thématique, cet événement historique, la croisade contre les albigeois, comment l'avez-vous abordé? Comment se présente-t-il? Est-ce qu'il y a plusieurs modules par exemple?
Oui, il y a vraiment des espaces qui sont conçus pour créer des espèces de petits écrans en quelque sorte qui permettent au public de se déplacer de l'un à l'autre. Alors, au musée Saint-Raymond, on présente par exemple les protagonistes à travers l'héraldique notamment. C'est une approche assez particulière et originale. La chronologie ensuite est apparente. Et puis à l'étage, au musée Saint-Raymond, on a des aspects plutôt thématiques, la société, la langue. On tient absolument à faire entendre l'Occitan médiéval. Ah oui, l'Occitan médiéval, oui, c'est important, c'est capital. Et puis après, voilà, on s'intéresse à quelques objets significatifs. Alors que au couvent des Jacobins, c'est davantage l'aspect spirituel, religieux. Donc c'est beaucoup plus complexe. Et donc là, c'est une présentation de l'Inquisition, des Dominicains, l'installation des Dominicains à Toulouse. Donc ça, c'est vraiment en relation avec l'hérésie proprement dite.
Alors on va évidemment faire un focus sur la partie de l'exposition au couvent des Jacobins qui a pour titre « Hérésie et hérétique ». Je reviens quand même au musée Saint-Raymond. Quels sont les documents et les pièces particulièrement remarquables, ou peut-être même rares, de cette partie de l'exposition?
Oui, pour donner quelques exemples, alors vous avez des boulets de Montségur qui sont exposés au musée Saint-Raymond. C'est quand même bien de voir à quoi correspondaient ces boulets que l'on voit souvent dans les films ou dans les séries. Vous avez donc des boulets de Montségur. Vous avez en ce moment, parce qu'elle ne va rester là que pour 3 mois, la chanson de la croisade contre les albigeois, qui est un manuscrit qui ne sort quasiment jamais de la BNF. Donc,
ça, c'est vraiment
une pièce exceptionnelle. C'est une pièce exceptionnelle. Et en plus, pour nous, c'est une source importante pour comprendre les événements. Voilà, après, vous avez... Il y a une matrice de sceaux. Alors, c'est pas très spectaculaire, dit comme ça, mais une matrice de sceaux. Mais celle-ci est en argent et elle a appartenu à une comtesse de Toulouse qui est une fille d'Aliénor d'Aquitaine. Donc, pareil, c'est un objet qui vient du British Museum et qui ne sort quasiment jamais. Donc, je suis très heureux qu'elle soit revenue sur les berges de la Garonne où elle a été pendant quelques années. Et puis, il y a beaucoup de mannequins, en fait, qui portent des vêtements. On insiste beaucoup sur cette histoire vivante, la reconstitution. Et c'est des choses qui sont assez spectaculaires et qui sont importantes à voir.
L'origine des pièces que l'on peut admirer et découvrir, que ce soit au musée Saint-Raymond ou au couvent des Jacobins d'ailleurs, c'est essentiellement quand même l'Occitanie.
Oui, c'est l'Occitanie qui est présentée, mais l'Occitanie dans sa large variété.
Donc c'est des pièces qui viennent de bibliothèques, parfois de collections privées.
Il y a beaucoup de pièces d'archives qui viennent de fouilles archéologiques. Cette exposition aussi permet de faire un peu la synthèse. Des grandes opérations archéologiques ont été menées dans la région depuis 20 ans à peu près. Donc c'est beaucoup d'objets de la vie quotidienne. C'est assez beau à voir et émouvant, parce que ce sont des objets qui sont exhumés du sol. Et il y a des documents d'archives, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont été reconstituées. Hein, et donc, là aussi, selon les techniques de l'époque.
On passe au couvent des Jacobins. Le titre, c'est « Hérésie et hérétique ». Qu'est-ce qu'il désigne précisément? Parce qu'on peut mettre beaucoup de choses derrière ces termes.
C'est « hérésie et hérétique » au pluriel.
Première chose, effectivement.
C'est très important, parce que ce qu'on appelle l'hérésie cathare s'insère dans un mouvement général où on voit se développer, ou en tout cas, ça peut être aussi le propos de l'Église, des hérésies. C'est-à-dire que ce catharisme n'est absolument pas isolé. On est dans un mouvement d'ampleur qui touche une grande partie de l'Occident chrétien de l'époque. Et puis, de toute façon, les hérésies, ce n'est pas spécifiquement nouveau à ce moment-là. Il y a toujours eu des hérésies. En fait, l'hérésie, je dirais, appartient au christianisme à partir du moment où celui-ci s'est constitué. Donc, voilà, on tient absolument à présenter cela au public. Ces hérésies, c'est des choses qui sont inhérentes au christianisme.
Alors j'en viens au parcours, là aussi, hein, qui est proposé aux visiteurs. Plusieurs modules également.
Oui, absolument, plusieurs modules, où on revient donc là sur justement un peu le clergé, présenter le clergé à l'époque médiévale, ensuite la mise en place de l'Inquisition, l'installation des Dominicains, etc. Il y a un très beau passage aussi sur les châteaux dits cathares, qui sont en fait des châteaux plutôt capétiens. Vous avez une séquence vidéo qui est assez impressionnante. Et puis il y a aussi un petit module où il y a une reconstitution, enfin une évocation d'un procès mené par les inquisiteurs. Ce qui permet aux visiteurs d'être vraiment dans l'ambiance de l'époque.
La vidéo, quels sont les moyens, les dispositifs qui sont mis à disposition du visiteur pour illustrer le sujet, les thématiques abordées dans chacune des deux parties de l'exposition?
Justement, ce sont des supports multiples, je dirais des supports classiques, les panneaux par exemple, ou des vitrines. Mais il y a des bornes interactives notamment qui permettent des parcours pour les enfants, mais les adultes peuvent y participer sans difficulté. Donc voilà, il y a la volonté que le spectateur ne soit pas justement passif, mais puisse intervenir et interroger. J'insiste sur ce verbe, interroger aussi les documents qui sont présentés. Donc il y a une interactivité qui est assurée.
C'est-à-dire que le visiteur peut poser les questions qui lui viennent à l'esprit en voyant certaines pièces, certains documents, lisant certains textes?
Non pas poser des questions, mais en tout cas, il a les moyens d'intervenir en touchant les écrans. Il y a un moyen tactile, donc il peut interroger les écrans, et donc ce qui permet de guider effectivement sa réflexion. Et puis, il y a aussi des audioguides. Les audioguides sont très intéressants parce que c'est un discours un petit peu décalé. Personnellement, je trouve ça très, très bien, et ça permet à tout public aussi d'aller à l'histoire sans passer par un discours parfois peut-être un peu sérieux, trop universitaire. Mais voilà, ces audioguides sont très bien faits et permettent d'avoir un accès, et ça permet aussi d'aller pour chacun à son rythme.
On parlait du catharisme tout à l'heure, des débats qui autour, même sur l'utilisation du mot cathare. Est-ce que le terme est mis en débat justement dans le cadre de cette partie de l'exposition?
Oui, dans le couvent des Jacobins, il y a un très très grand panneau où le débat est exposé, hein, son origine, etc., et les différentes positions des médiévistes, des historiens. Voilà, tout cela est présenté de façon, je dirais, neutre. Hein. J'insiste, on ne prend pas parti. On veut vraiment exposer les éléments du débat. Et après,
tels qu'ils sont aujourd'hui.
Tels qu'ils sont aujourd'hui, absolument. Et parfois, il y a notamment un document qui est présenté pour lequel on n'a pas de réponse.
Le scientifique s'arrête à ce moment-là, il ne peut pas aller plus loin. Après, on est vraiment dans la projection de sentiments, d'idées qu'on peut avoir soi-même. Donc on doit s'en tenir aux faits, aux documents dont on dispose.
Absolument. Et voilà, c'est important aussi de montrer nos propres doutes, hein, par rapport à comment interroger un document. Et effectivement, je pense qu'on a essayé d'être honnête.
Vous parliez des enfants. À partir de quel âge on peut visiter cette exposition? À partir de quel âge on peut y emmener ses enfants?
À partir de 7-8 ans, je pense que c'est... Oui, on peut allègrement naviguer dans cette exposition.
Alors, il y a une question que j'aime bien poser au commissaire d'exposition, au directeur d'établissement culturel qui monte des expositions. Comment vous espérez que le visiteur va ressortir de l'exposition?
Heureux. J'espère qu'il va ressortir heureux. Non, en fait, heureux d'avoir appris, heureux d'avoir été pris par la main aussi, d'avoir été guidé sans avoir été orienté.
Vous insistez beaucoup sur la neutralité de tout ce qui est présenté, et après, charge à chacun de se faire son idée sur les sujets, les thématiques qui sont proposées lui-même à partir de tout ce qui lui aura été apporté comme document, comme pièce et éventuellement comme débat. Est-ce qu'il y a des événements, des conférences, des rencontres qui vont être organisées autour de l'exposition durant les 9 mois qui sont encore devant nous?
Oui, alors le musée Saint-Raymond va proposer un certain nombre d'activités, donc des conférences notamment qui vont avoir lieu sur ce site ou ailleurs. Et puis à l'automne, on va aussi proposer une journée d'études qui sera ouverte pour le public toulousain. Donc oui, il va y avoir des cycles de conférences et pas mal de choses qui vont continuer à illustrer et accompagner cette exposition.
En parallèle de l'exposition elle-même, Laurent Massé, vous publiez 2 ouvrages. Alors, il y en a un qui est vraiment en relation directe avec l'exposition. Le titre, c'est « Hérétique » avec un S, encore une fois, et un point d'exclamation. « Les Toulousains dans la croisade 1209-1229 », publié aux éditions Kern. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet ouvrage?
Alors, c'est un ouvrage, en fait, un peu particulier, puisque j'ai souhaité traduire du latin et de l'occitan médiéval des documents qui parlent des Toulousains et des Toulousaines durant ce conflit. Il me tenait à cœur vraiment de présenter au public quelles sont les pièces sur lesquelles justement les historiens travaillent et à partir desquelles ils déduisent un certain nombre de réflexions. Donc c'est un ouvrage qui a demandé beaucoup de temps, mais une fois de plus, je voulais donner les pièces à montrer.
Ouvrage très documenté et de très belle facture, ma foi, les éditions Kern font de l'excellent travail. Et toujours aux éditions Kern, vous présentez aussi Petite histoire des troubadours. Alors ça, c'est plutôt en lien avec la bibliothèque du patrimoine.
Oui, il y a une exposition qui démarre en même temps que celle du couvent des Jacobins et du musée Saint-Raymond, qui a lieu donc à la bibliothèque d'études et du patrimoine, rue du Périgord. Et c'est une exposition qui est consacrée donc à la langue d'oc, au troubadour, puisque cette année, nous fêtons le 700e anniversaire de la création de l'Académie des Jeux Floraux. Et effectivement, l'année dernière, j'ai publié un petit ouvrage, une petite histoire des troubadours. Et cet ouvrage va être récompensé d'un prix décerné par l'Académie des Jeux Floraux. Donc je suis très heureux, très fier.
Et sujet passionnant également, eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission à laquelle je vous remercie chaleureusement, Laurent Massé, d'avoir participé. Merci de nous avoir apporté tous ces précieux éclairages sur l'exposition Qatar-Toulouse dans la croisade, à découvrir au musée Saint-Raymond et au couvent des Jacobins jusqu'au 5 janvier prochain. Elle est passionnante et pas seulement pour les érudits, d'ailleurs elle ne s'adresse pas aux érudits. Je vous conseille d'aller sur les sites web du musée Saint-Raymond et du couvent des Jacobins pour vous renseigner sur les horaires d'ouverture afin de préparer au mieux votre visite. On peut les faire dans l'ordre qu'on veut?
Absolument, il n'y a pas d'ordre.
Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Excellent week-end à tous.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.